C'est hyper psychologique, en fait, de travailler en famille. Il faut être bien conscient que tu vas faire face à, et faire ressortir des choses familiales que tu n'avais pas imaginées du tout, quoi.
Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et c'est parce que nous l'aimons plus que tout que nous voulons mieux comprendre ce qui fait un bon vin. Cépage, climat et terroir y participent, mais avant tout, il y a la patte des vigneronnes et des vignerons. Je suis Romain.
Je suis Florian.
Je suis Antoine.
Nous sommes trois copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine, pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le Bon Grain de l'Ivresse. Deux vigneronnes et deux histoires d'installation mises en regard. Voilà ce que nous vous proposons dans cet épisode. Parce que c'est une étape cruciale dans la construction d'un domaine et de son image. Et il va sans dire que cela peut être un parcours semé d'embûches. Mathilde Magne a créé Terre d'Imaginaire, son domaine en Anjou, à partir de rien. Elle n'est pas du coin et n'a même pas grandi dans les vignes. Élisa Guérin, quant à elle, est un pur produit du Beaujolais avec des parents vignerons. Mais elle a décidé de mettre en œuvre de profonds changements en prenant leur suite, à commencer par créer un domaine qui porte son nom. Voici donc un dialogue à trois voix, enregistré en janvier dernier à Paris, lors du salon Atome Goûtu de l'atelier Soubiran. Deux histoires de vigne, deux histoires de vie.
Eh ben bonjour Mathilde, bonjour Élisa.
Bonjour.
Et
bonjour.
Et bonjour tout le monde, puisqu'on est aujourd'hui en public au salon Atome Goûtu à Paris, organisé par l'atelier Soubiran. C'est une première pour moi d'enregistrer en public, donc j'ai la voix qui tremblote un petit peu, pour être tout à fait franc, mais ça va très bien se passer. Donc on est là avec vous deux, Mathilde et Elisa, deux vigneronnes, une dans le Beaujolais et une en Anjou. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît? Allez, Elisa, on commence par toi.
Bonjour à tous, je suis Élisa Guérin, je viens du Beaujolais, d'une famille de vignerons et je suis installée en reprise du domaine familial depuis 2019, après un parcours étudiant et un emploi sur Paris.
Est-ce que tu peux nous détailler ton parcours étudiant, s'il te plaît, un petit peu, comment t'as été?
Alors, j'ai fait un DUT en agronomie, puis une école d'ingénieur en agronomie avec... pour idée de reprendre les vignes familiales depuis le début de mon parcours d'agronome.
Ok, on reviendra un petit peu plus précisément sur tes envies de reprendre le domaine familial. Mathilde, s'il te plaît.
Moi, je suis installée en Anjou depuis 2022. De formation, je suis ingénieure agronome et œnologue. Et c'est depuis un petit stage en première année d'école d'ingé que j'ai eu... la révélation sur le fait que je voulais m'installer en tant que vigneronne. Du coup, j'ai axé tout mon parcours, tout mon cursus là-dessus. Et sortie de mes études, je suis allée travailler chez un vigneron en Bourgogne dans le but de faire mes armes. Donc voilà.
Est-ce que on peut détailler un petit peu ton parcours? Parce que je crois que tu as eu plusieurs stages, plusieurs expériences professionnelles qui t'ont permis d'approfondir un petit peu ton envie et la passion que tu as eue pour le vin, qui n'était pas forcément une évidence quand tu as commencé tes études.
Oui, carrément. Je voulais faire vétérinaire pour les chevaux, le gros classique. Du coup, c'est pour ça que je suis partie en prépa. En fait, premier jour de prépa, je me suis rendu compte que je ne voulais pas faire du monde du cheval mon métier au quotidien. Et heureusement, ils avaient regroupé les banques écoles d'agro et veto. Donc, je me suis engagée dans une école d'agro. À ce moment-là, c'était soit les cosmétiques naturels, soit le vin, pourquoi pas. Et en fait, en avril, j'ai fait un stage d'un mois chez un vigneron dans les coteaux de Nice, Michel Spizzo, si tu m'entends, qui m'a fait découvrir toute sa profession, enfin sur un mois seulement, mais la partie, il a voulu me montrer un petit peu de tout. Et c'est là où j'ai eu le gros déclic en me disant « Ok, super, ça va me passionner, je fonce ». Du coup, j'ai fait un stage en analyse sensorielle, je suis allée faire des vinifs en Suisse, j'ai fait un stage en Toscane chez Stefano Amerighi, plus vinif, là, et stage de fin d'études au Château Figeac à Saint-Émilion. Et sortie de ça, effectivement, j'étais aussi très impliquée dans mon club Eno d'école, où j'ai organisé un concours de dégustation. Donc voilà, le but, c'était de brasser un peu toutes les facettes du monde du vin, mais avec toujours cette envie qui s'est intensifiée de m'installer en tant que vigneronne. Mais pour ça, sortie de mes études, je ne me sentais clairement pas prête. C'est pour ça que j'ai voulu frapper à la porte de chez un vigneron en me disant il faut que j'ai deux mains gauches, il faut que je devienne débrouillarde. Comment on fait pour s'installer? Est-ce que je vais vraiment avoir les épaules pour assumer ce métier au quotidien? Parce que moi, pour le coup, je ne viens pas d'une famille viticole. Je ne dis pas que ça fait tout, mais j'avais pas trop de feedback sur comment ça se passe, etc. Moi, j'ai grandi à Paris et pas de famille dans le vin, effectivement. Donc voilà, fallait que je puisse un peu intégrer tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai frappé à la porte de chez Sylvain Pataille à Marsanais, qui m'a dit OK. Et là, j'ai travaillé pendant 3 ans chez lui, à toucher un peu à tout. Et ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier pour me lancer, quoi.
Et ta vie a changé?
Eh oui, et ma vie a changé. Il m'avait roulé sur les vins blancs de terroir. Moi, j'adorais ces pinots noirs. Et puis, je suis repartie, j'étais folle de vins blancs. J'avais goûté 2-3 chenins, notamment Moxouri chez Bruno Rochard, grâce à une copine angevine, qui est très chauvine. Donc, elle voulait me ramener des vins de là-bas. Et là, j'ai eu le gros déclic en me disant, ah ouais, la Vallée de la Loire, il se passe un truc. En fait, je veux faire des vins blancs. J'aime beaucoup les vins rouges, mais j'ai vraiment envie de faire des vins blancs. Du coup, j'ai brassé de Vouvray jusqu'en Vendée. Et puis, le coup de cœur a été sur l'Anjou. Et coup de bol, 6 mois après avoir décidé que c'était l'Anjou le vrai coup de cœur, avec mon mari, hein, on s'est pas mal concerté, et ben, j'avais rencontré un jeune qui m'a proposé de récupérer des vignes d'un vigneron qui partait à la retraite. Et je suis allée voir les vignes, gros coup de cœur, et youp la boum, c'était parti.
Alors, je voudrais qu'on approfondisse un peu ton passage en Bourgogne. Déjà, j'ai une question précise. Comment ça se passe, la transition de Figeac à Sylvain Pataille, en termes d'ambiance et de conditions de travail?
Oui, c'est vraiment deux mondes différents. Alors, déjà, sans parler de la lutte Bourgogne-Bordeaux, non, je rigole.
Mais on est là pour opposer personne.
c'est clair. Non, en plus de ça, chez Sylvain, c'était un premier emploi. Et il y avait vraiment cette volonté de la part de Sylvain de me responsabiliser. Le nombre de fois où il m'a dit « Ah ouais, tu veux t'installer? Bah vas-y, tu ferais comment si c'était chez toi ?» Puis il raccroche au téléphone et là, t'es là « Bon, d'accord !» Donc il m'a vraiment incité plusieurs fois à vraiment creuser les méninges. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et l'expérience Figeac, c'était super intéressant de voir aussi un grand domaine très hiérarchisé avec de l'équipement. Donc il y a du confort au travail aussi par rapport à ça. Donc c'est chouette de voir tout ce que tu peux faire et tout ce que tu peux pousser dans la précision. Typiquement, traçabilité sur les bouchons, je pense à ça. Ils font du travail de fourmi pour bien faire en sorte que chaque bouchon soit hyper bien contrôlé et qu'il n'y ait pas de problème derrière. Donc ça te montre comment tu peux pousser un contrôle qualité très très fort avec du matériel très performant. Et après, effectivement, tu arrives chez Sylvain Pataille où il faut plus bidouiller, mais en même temps, quand tu es dans l'objectif de t'installer derrière, je pense que c'est complémentaire, voilà, d'avoir vu un certain schéma et puis l'autre aussi qui t'apprend peut-être un petit peu plus la réalité vis-à-vis du budget que tu auras alloué aussi pour ton projet, etc. J'avoue que chez Sylvain, pour ça, c'était le top, quoi. MacGyver.
T'étais encore hésitante sur le fait de t'installer quand t'étais chez lui ou pas?
Non. Alors en plus, moi je suis arrivée avec mes gros sabots. Mon mari, il est franco-libanais. Et on s'était dit, ça peut être super de monter un vignoble au Liban au début. Et alors Sylvain qui me riait au nez en me disant, tu vas voir, tu vas rester en France. Mais après, ça m'a plus. Il y avait plus la question de où. Comme je n'avais pas d'attache à l'origine à une région particulière, même si j'aimais beaucoup la Bourgogne, c'est très compliqué de s'installer par là-bas, en termes de disponibilité de vignes, de budget, etc. Donc c'était plus mon doute, c'était un peu plus mais quelle est ma vraie terre d'accueil sur laquelle je vais me sentir au mieux, où j'ai des amis, où est-ce que je suis trop loin de la famille. Enfin voilà, rassembler le maximum de paramètres pour faire en sorte que tu sois bien dans toute ta vie, où tu sais que tu t'engages sur un métier qui ne va pas être simple, il va y avoir des jours noirs, des doutes, des stress, etc. aussi. Donc il faut être dans un minimum de confort quand tu t'installes pour pouvoir surmonter toutes ces épreuves-là, quoi. Donc, et j'avoue que l'Anjou, mais je ne sais pas si je l'avais tant anticipé que ça, mais en fait, ça coche un nombre de critères incroyables, quoi. Franchement, impressionnant.
Elisa, je te vois beaucoup acquiescer là depuis que Mathilde répond à mes questions. Dans ce qu'elle dit, là, il y a quelque chose qui résonne en toi, il y a des choses qui te parlent?
Ce qui résonne en moi, c'est surtout je pense que c'est très important d'être entouré quand on s'installe et qu'on démarre, qu'on est jeune. Parce que le métier du vin est très complexe, il nécessite beaucoup de connaissances empiriques qu'on acquiert avec de l'expérience. Et si on s'installe dans une région où on ne connaît personne, où on ne connaît pas de vieux vignerons, où on n'a pas d'amis qui nous soutiennent, je pense que c'est compliqué de percer et d'avoir des connaissances très rapides. Parce que, enfin, dans le Beaujolais, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est franchement mes amis, c'est les vieux vignerons qui voulaient bien transmettre leur savoir, et c'est eux qui m'ont... je pense que c'est eux qui m'ont amené du savoir associé à mon intuition qui permet maintenant de faire les vins que je fais, quoi. Et sans eux, j'aurais pas été grand chose, quoi. Si je m'installe dans une où je connais personne et personne te transmet ses connaissances, personne te dit ah bah tel terroir, parce que le vin c'est tellement, faire des bons vins c'est tellement multifactoriel et on sait pas trop sur quel élément jouer, quoi, parfois. Et je pense que de parler avec des anciens, de s'intégrer dans un village, moi je suis originaire de là-bas, donc j'ai le gros avantage de connaître plein de gens là-bas et donc de bien connaître les terroirs. Je connais les meilleurs terroirs, je connais les endroits qui font des bons vins, enfin, donc ça c'est un avantage mais majeur, quoi. Et je pense que c'est, enfin, par exemple, le domaine Angela Hugo, qui a un domaine à côté de chez moi, le domaine Obora.
Oui, qu'on connaît bien, qu'on avait interrogé quand ils étaient au domaine des jeunes pousses et qui sont devenus des amis. Ouais.
Voilà, et du coup, eux, ils arrivent sur une région qu'ils ne connaissent pas, et je pense que le domaine des jeunes pousses les a permis de s'intégrer dans la région, de connaître du monde, et c'est plus facile quand on connaît du monde pour faire des bons vins et aller plus vite, en fait.
Toi, tu viens de le dire, c'est ta terre, le Beaujolais, t'es né là-bas, il y avait tes parents qui étaient déjà vignerons. Est-ce que c'est un métier dont t'as toujours rêvé? Ou alors est-ce que c'est un métier qui a pu, le fait de baigner dedans toute ta vie, ça a pu agir comme un repoussoir un petit peu?
Alors non, pas du tout, c'est vraiment un métier dont j'ai toujours rêvé depuis toute petite, quoi. Je baigne dedans et j'aime ça depuis toujours. C'est plutôt mes parents qui m'ont poussée à faire des études et à faire autre chose, en fait. Mon père était pas du tout d'accord pour que je reprenne le domaine au démarrage. Donc quand je lui ai dit, depuis que j'avais 19 ans, que j'ai commencé mes études, que je voulais faire la vigne de toute façon et que pourquoi pas je ferais un BTS vitiono, non, tu fais des études, tu auras un bon boulot comme ça. Il y a cet esprit du monde paysan, entre guillemets, où le Beaujolais a connu une crise dans les années 80, 90, 2000. Les vins se vendaient mal, il y avait l'empreinte du Beaujolais nouveau. Et mon père a connu tout ça, puisqu'il vendait au négoce en gros volume. Et du coup, il était un peu dégoûté de son boulot en disant « Tu gagneras jamais ta vie avec ça. » Voilà. Et moi, j'avais une autre vision du métier parce que j'avais des amis de la région dont les parents étaient les précurseurs du mouvement des vins naturels dans le Beaujolais. Donc eux, ils avaient une autre vision de la viticulture beaujolaise.
On peut citer des noms, s'il te plaît.
Alex Foyard est un super ami depuis le collège. Ophélie Dutrève, du domaine de la Grand Cour. Et c'est vrai que c'est eux qui m'ont donné une autre vision du vin, cette espèce de joie autour du vin, d'essayer de faire un vin qui représente ton terroir. Et aussi, j'ai été beaucoup chez eux. Ils m'ont fait goûter très jeune beaucoup de vins très connus. Je me rappelle, chez Foyard, on avait 18 ans. Ils ouvraient des Auvernois quand j'allais le dimanche chez eux. Enfin, moi, j'aurais jamais eu accès à ça s'ils n'avaient pas été là, quoi. Et ça a beaucoup pesé dans la balance. Sur l'image du métier aussi, qui était dégradé du côté de mon père, alors qu'eux, ils disaient le Gamay, c'est super, on a des terroirs magnifiques dans la région, on peut faire des vins incroyables, d'une grande finesse, qui se gardent. Et mon père avait plutôt l'image de les marchés s'effondrent, de toute façon, le Gamay, c'est pas un vin qu'on peut garder dans le temps. Enfin, voilà.
Tes parents, ils n'ont jamais eu envie de sauter le pas, de faire leur vin, et enfin d'arrêter de vendre au négoce et de devenir vigneron, comme ça pouvait être le cas pour Dutrève ou autre?
Alors, mon père mettait en bouteille une toute petite partie de sa production, mais il n'a jamais réussi à percer, au niveau de la clientèle, export ou restaurateur, CHR, etc. Donc, à son grand âme, il n'a jamais réussi à percer, et c'est vrai que depuis que je travaille au domaine que j'ai repris en 2019 et que j'arrive à vendre plus de vin en bouteille à l'export, ça s'est fait progressivement. Mon père a un regard à la fois c'est génial et à la fois punaise, pourquoi moi je l'ai pas fait, quoi? Pourquoi j'ai pas réussi à le faire?
Tu saurais dire pourquoi toi il n'a pas réussi à percer?
Bah parce que il a pas les, parce que à mon sens il a pas les codes. Moi j'ai fait des études, j'ai habité Paris, j'ai été commerciale, j'ai été acheteuse. Il avait pas les codes du commerce quand on est vraiment paysan. Il s'est installé, il avait 16 ans, il a repris les vignes de ses parents à 16 ans. Il avait pas du tout les codes pour vendre en fait du vin et savoir valoriser ses vins, dire mon vin il est unique parce que. Ça, il savait même pas le faire, quoi. Et il pensait que son vin était lambda. Parce que il voit pas, parce que c'est des gens qui ont pas voyagé, qui ont pas vu d'autres régions viticoles, même pas d'autres régions viticoles, tu vois, et qui, du coup, se disent oui, bah, c'est du gamay, quoi. Enfin, comme ils sont faits plein.
Et en quoi est-ce qu'il était unique, le vin de ton père, d'après toi?
Ben, je pense qu'il était unique parce que mon père est un très, très bon vigneron. Il a toujours. Très bien bichonner ses vignes, voilà, comme un paysan, quoi. Il adore le terrain toujours, hein, il va toujours beaucoup à la vigne. Et par contre, très rigoureux à la vigne, mais sur la vinif aussi très rigoureux, peut-être trop. Parfois en vinif, il faut aussi laisser aller son intuition et oublier cette rigueur qui te permet parfois de faire des vins qui sont plus sensible, quoi. Et mon père avait trop de rigueur et du coup il faisait des vins méga carrés, hyper, c'était hyper strict et ça manquait légèrement d'émotion.
Est-ce que la philosophie à la vigne, t'as gardé la même que celle de ton père ou est-ce que t'as apporté quelque chose de neuf?
Alors mon père était, on va dire ce qu'on appelle la viticulture raisonnée, même si j'aime pas bien ce mot, mais donc parce que c'est j'aime pas bien ce mot tout simplement parce que c'est plutôt les industries phytosanitaires qui aiment bien le dire, mais il était pas en bio, mais bon, il avait déjà engagé du travail du sol, etc. Moi, ce que j'ai apporté, c'est des connaissances un peu techniques d'agronome sur ramener de la matière organique, avoir des sols un peu plus vivants, avoir de la rétention d'eau, enfin voilà, surtout là-dessus, sur la fertilisation, les choses comme ça, ce qui, lui, il avait complètement zappé ça, mais vraiment, ça faisait des années que les sols, ils avaient pas été nourris. On est passé, quand je suis revenue en 2019, on a commencé à travailler en bio sur une parcelle et vraiment j'ai fait les choses doucement et par étapes parce que mon père est toujours sur le domaine avec moi, donc il voulait pas forcément changer tout d'un coup et ça a été une lutte un peu avec lui de changer les méthodes et du coup j'ai essayé de le faire au fur et à mesure. Parce qu'il était d'accord, mais en même temps, quand fallait le faire, se mettre à labourer, il me disait « Ouais, on va arracher tous les cèpes, tu fais chier avec tes nouvelles idées. » Et du coup, c'était dur quoi, de tenir, parce que je me disais « Mais Elisa, est-ce que tu as fait vraiment le bon choix? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle quoi, qu'est-ce que tu veux faire là à essayer de convaincre ton père qui va bientôt être à la retraite de travailler comme ça? Est-ce qu'il ne faut pas attendre encore 15 ans et t'installer beaucoup plus tard ?» Mais en même temps, c'était le moment où j'avais envie de le faire et l'énergie aussi pour le faire, quoi.
Et malgré tout, tu as été dans une situation un peu particulière, en tout cas qu'on n'entend pas beaucoup dans le vignoble, il me semble. C'est qu'à un moment, tu étais à mi-temps au domaine et tu continuais à travailler par ailleurs, c'est ça?
Ouais.
Pourquoi tu as fait ce choix-là? Pourquoi tu t'es pas dit, allez, j'y vais à fond et c'est parti à 100% et tête baissée?
Justement, pour pas être tête baissée. Justement, pour pas être tête baissée et continuer à... avoir premièrement une sécurité de l'emploi qui me permettait de ramener un salaire et d'entamer une transition très, très douce sur le domaine et de pouvoir commencer à commercialiser des petits volumes sans avoir une pression financière, en fait. Et ça m'a permis tout de suite de prendre plus de risques en vinif aussi parce que j'avais un boulot à mi-temps à côté, quoi. Donc, parce que c'est très difficile, en fait, quand tu t'installes. Je pense, hein. Moi, comme je me suis installée progressivement, j'ai pas du tout le même profil que toi, mais c'est très difficile quand tu t'installes d'avoir 5 hectares, de dire ah ouais, même si t'as des convictions, je vais tout vinifier en nature et tout va être bon. Et des fois, t'as des réalités qui te rattrapent et qui te disent ah bah non. Donc moi, j'étais consciente de ces réalités-là avant, tout simplement parce que je baignais beaucoup dans le monde viticole. Et du coup, je me suis dit, je vais commencer par faire 5000 bouteilles, tester. Une cuvée comme ça, voir si j'y arrive, si c'est faisable, et après, j'évoluerai au fur et à mesure. Donc, j'avais pas de pression financière, et ça m'a permis d'avoir plus de liberté, je pense, dès le départ, quoi.
Alors, Mathilde, toi, t'es dans une situation un peu différente, t'as pas le même vécu que Elisa. c'est tes stages et ton expérience chez Sylvain Patay qui ont précédé ton installation. Je voudrais qu'on fasse un petit bond en arrière. Ça y est, t'as les clés du domaine, c'est le premier jour, c'est toi qui décides. Tu te sentais comment à l'époque ?
Là, en 2022, là ?
Ouais.
Bizarrement, je pense que rétrospectivement, je me suis rendu compte que la partie production, elle passe tout smooth par rapport à toute la charge que t'as d'administratif et de machin à gérer. C'est dingue. En fait, tu te découvres un peu un sixième sens d'intuition de « Ouh, on va faire ça comme ça, mais... » En prenant en compte des paramètres de logistique, tout ça, tu te dis, bah, voilà, le meilleur compromis, qu'est-ce que je peux réaliser finalement, bah, c'est ça, bah, j'y vais comme ça. Et on va, et tu, faut, je pense qu'il faut être à moitié fou quand même aussi. Elisa Aikès. Ouais, c'est ça. Parce que autant la vigne, finalement, ça prend du temps, c'est ça. Et y a, comme tu disais, Elisa, il y a une partie d'échange et de retour d'expérience des personnes autour de nous qui est mais riche au possible et qui t'évite de faire des conneries monstres. Et ça, c'est très, très précieux. Je trouve qu'en Anjou, j'en bénéficie énormément. On est dans une terre d'accueil où les gens sont très dans le partage et je les remercie parce que moi, ça me permet de gagner un temps fou sur plein, plein de choses. Et de pouvoir faire confiance à des retours d'expérience, etc. Et en vrai, on en a besoin en termes de charge mentale parce que t'es tellement mais à gérer un nombre de trucs administratifs. Je pense que ça, c'est le truc que j'avais pas... On t'en parle, hein. Tes copains vignerons qui sont installés depuis plusieurs années, ils t'en parlent. Mais en vrai, ouais, c'est vraiment très conséquent, très important et hyper nécessaire pour éviter de couler ta boîte parce que, en fait, vigneron, t'es surtout aussi chef d'entreprise, quoi. Et ça, c'est... C'est, voilà, c'est la partie très engageante qu'il ne faut pas négliger, qui est vraiment tangible. Et moi, je pense que la charge administrative, je ne l'avais pas autant évaluée en amont. Quoi. Finalement, la partie prod, c'est là où je me délecte. J'adore, je trouve ça trop cool, plein de questions, plein de défis. Encore une fois, donc, la vigne, ça y va pas à pas, donc c'est assez agréable. Et la partie vinif, ouais, t'as ce sixième sens d'instinct de « on va faire ci comme ça, on va faire ça comme ça ». Oui, il y a des casseroles, mais... Bon, tu te rends compte que même si t'as un fût qui est daubé, c'est pas grave, tu vas l'assembler avec les autres, ça va apporter de la complexité, c'est tout se complète. Finalement, t'as vraiment cette notion de diversité qui vient un peu tout équilibrer. Mais par contre, effectivement, faut faire gaffe sur la gestion avec tes relations avec les banques, le comptable, les conseillers de gestion d'entreprise. Enfin, c'est beaucoup de frais, de machin. Ça, c'est la partie un petit peu plus touchy, je trouve.
Et toi, tu t'es lancé aussi directement dans le bio?
Ouais.
Pourquoi?
Dès le début. Parce que bah, c'est parti déjà d'une façon de comment je consomme, etc. Ça, c'est intégré dans ma façon de vivre au quotidien. Je ne voyais pas ne pas me lancer là-dedans, quoi qu'il arrive. C'est des années de retour d'expérience. Il y a mon profil assez scientifique aussi qui se raccroche à ça, sur le fait qu'il y a des vraies problématiques, des vrais enjeux. Et je pense que ce qui me motive énormément dans ce projet d'être devenue vigneronne, c'est de... Au vu de ce qui nous attend au niveau du changement climatique, etc., qu'est-ce que je peux faire sur cette terre pour essayer de faire du bien? Ben voilà, moi j'ai mes 8 hectares et au moins j'aurais essayé de faire du bien, d'apporter de la biodiversité, parce que historiquement c'était en chimique. Donc voilà, il faut réapporter un petit peu de vie là-dedans. Et forcément, c'est un vigneron qui partait à la retraite, à qui j'ai racheté des vignes. Donc forcément, il n'a pas fait d'apport en engrais ou quoi que ce soit. C'est normal, il n'allait pas réinvestir. Enfin, c'est normal, je comprends pourquoi il ne l'a pas fait. Mais voilà, donc moi c'est mon objectif, ça me permet de tenir la barre dans notre pauvre vie de micro dans cet univers, c'est d'apporter du bien comme je peux.
Est-ce que l'état dans lequel tu as récupéré le vignoble, ça aurait pu te dissuader de reprendre ces 8 hectares?
Ça, je pense que c'est le gros flip effectivement, parce que oui, on a eu le coup de cœur en s'installant, enfin mon mari et moi quand on est allé voir les vignes, oui t'as le coup de cœur sur le paysage, etc., mais quid de vraiment la qualité derrière? On y est allé en février, donc les vignes n'étaient pas encore taillées, mais tu sais, c'est tout rabougri, etc., et tu sais pas en fait si t'es en train d'acheter quelque chose de qualitatif ou pas. Donc on s'est un peu encore une fois, le côté un peu foufou, quoi. Tu te mets un peu des yeux en disant ouais, j'ai l'intuition que ça va bien se passer. Donc il y a eu le coup de cœur, donc on s'est dit ok, ça peut être vraiment le moment, quoi, pour y aller. Financièrement, après tu regardes, après tu redeviens un petit peu plus pragmatique, tu regardes financièrement si t'es cohérent et tout. Et j'avoue, j'ai frappé à la porte de chez Patrick Baudouin, qui est pas très loin à Chaux-de-Fonds, en lui demandant « Ouais, est-ce que tu peux venir voir avec moi les vignes que potentiellement je pourrais racheter ?» Alors trop sympa, il me chope sa tarière, il me ramène son énorme atlas des terroirs du coin. Puis on est allé dans les vignes, alors on a quasiment pas parlé de sol, mais en fait, il m'a parlé de l'historique des noms des cadastres pour me dire « Ah, ça, ça veut dire que c'est comme ci, ça, ça veut dire que peut-être que c'était comme ça. » Et trop chouette. Encore une fois, l'échange, le retour... Voilà, l'échange hyper spontané, hyper sympa des gens du coin. Donc ça, c'était une super expérience. Mais bon, et du coup, je dis pas que ça a été décisif, hein, mais parce qu'on a surtout parlé des noms des cadastres. Mais bon, le fait est qu'on s'est dit, OK, go, il y a eu un gros coup de cœur. On a acheté des vignes qui sont dans un même secteur, mais qui est encore hyper boisé. C'est pas une mer de vignes. Et du coup, on s'y plaisait bien. On a kiffé l'atmosphère. On s'est dit, OK, ça va être là, go. Mais beaucoup de doutes, enfin, en vrai...
Alors, il y avait 8 hectares.
Ouais.
Est-ce qu'il y avait du matériel et du bâtiment avec ?
Alors, bâtiment, non. Parce que pour récupérer le bâtiment qui était associé à ces vignes, il fallait acheter la maison qui allait avec et qui ne nous convenait pas trop en termes de tarifs, de profils, de machin. Et on voulait, avec Nicolas, mon mari, du coup, bien couper avec le domaine, dire stop les week-ends, s'autoriser de ne pas être dessus. Parce que moi, je me connais, je suis une pile électrique, donc si j'habite juste à côté, c'est sûr que j'y serais allée tout le temps. Donc ça permet de vraiment couper parce que Nico m'accompagne dans le projet. Mais l'idée, c'était aussi que notre couple il fonctionne bien, qu'on garde notre vie privée. Tout ça. Donc ça faisait partie du projet. Enfin, c'était nécessaire pour que le projet, pardon, se mette en place. Et du coup, le bâtiment, on a trouvé un petit boui-boui pour dépanner chez un vieux du village pour la première année, qui a bien dépanné, mais qui était tout petit. Et là, il se trouve qu'on a eu vachement de chance. Les planètes se sont alignées, mais le vigneron à qui j'ai racheté les vignes m'a finalement proposé de récupérer son chai sans la maison. Donc j'ai déménagé une semaine avant les vendanges dans le nouveau chai. Et on est super contents parce que là, il y a 390 mètres carrés, il y a une cave souterraine, il y a une vue de ouf. Et là, je suis à 2 minutes à pied de mes vignes, quoi. Avant, il fallait que je traverse le village. Mais là, c'est...
C'est un peu plus confortable.
Ah, complètement. Ça, c'est trop chouette. Donc, j'ai eu vachement de chance là-dessus parce qu'en termes de bâtiment, tu peux rien construire maintenant. Tout est protégé, c'est très bien, hein, mais tout est protégé. Et à vendre, t'as rien, quoi. Donc...
Et tout ça, c'est un investissement de combien, si on peut parler de chiffres ?
Alors, sur les vignes, on était, en gros, pour les 8 hectares... T'as un écart type pas négligeable parce que les coteaux du Lion sont plutôt à 27 000 euros de l'hectare de ce que j'ai acheté et le reste était plutôt à 14 000, 15 000 euros de l'hectare. Et en gros, moi, ça m'a fait une enveloppe à 118 000 sur le parcellaire. Et là, le chai, frais de notaire compris, c'est 130 000 euros. Voilà.
Donc c'est très loin de ce qu'on peut imaginer en Bourgogne ou dans d'autres régions.
Hein. 240 000 euros l'hectare.
Ouais, ça va, là.
C'est clair. Ah bah là, ouais, t'as les deux en un, quoi. Ouais, exact. Bah c'est une réalité. Et ouais, ça.
C'est une transaction qui est passée par la SAFER ou pas ?
Non, les vignerons à qui on a racheté les vignes ne voulaient pas passer par la SAFER. C'était leur souhait. Nous, ça nous allait bien.
Donc ça n'a pas été trop un parcours du combattant d'acheter le domaine ?
Non, ça s'est fait assez facilement. C'était assez simple. En fait, c'est un ami qui m'a... Enfin, c'est devenu un ami, Christophe, qui, lui, avait eu oui dire de ce parcellaire qui était à vendre prochainement, qui m'a recontacté. On s'était rencontrés chez Marc Angéli quand j'avais fait une semaine de prospection à travers la Loire pour rencontrer plein de vignerons, donc tous les cadors, Richard Leroy, Tessa Laroche, et j'en passe. Et du coup, il y avait cette journée un peu de rencontre de porteurs de projets organisée par Marc Angéli et Stéphane Rocher. Super sympa et encore du réseau. Et là, c'est là où j'ai rencontré Christophe qui m'a dit 6 mois plus tard, hey, je connais un couple de vignerons qui partent à la retraite à Rochefort. Est-ce que ça vous tente ? Donc, on s'est répartis les vignes. Donc, à la limite, la partie la plus compliquée, ça a été de séparer une parcelle en deux avec le géomètre parce que ça prend du temps. Mais non, l'achat des vignes a été assez simple. Mais effectivement, quand j'y repense, en ressortant de quand on allait visiter pour la deuxième fois les vignes, on était complètement lessivés avec Nicolas. On allait manger dans un vieux boui-boui près de Chalonne-sur-Loire et on se regardait, on savait pas quoi. On était là, on y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas. Mais bon, c'était le temps que le cerveau potasse le sujet.
Je fais une toute petite parenthèse. Je voudrais qu'on en profite pour rendre un peu hommage à Marc Angéli, pardon. Parce que ça fait quand même plusieurs années qu'il fait ce travail de mise en relation de porteurs de projets, de gens qui ont de l'argent, de gens qui veulent vendre et ainsi de suite. Et s'il y a une région, enfin si l'enjeu c'est si dynamique, c'est aussi en partie parce que il fait ce travail-là de mise en relation, quoi.
Complètement. Merci Marc.
Elisa, aujourd'hui le domaine il porte ton nom, donc c'est le domaine Elisa Guérin. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la structure derrière ? Est-ce que les vignes, elles sont à toi ? Est-ce que c'est toujours à tes parents ? Comment ça se passe une transmission ? Là, on a parlé de vente. Comment ça se passe une transmission dans la famille ?
C'est compliqué. Ouais. Hein. Parce que, alors, il y a plein d'avantages à être issu du monde viticole, mais Moi, j'ai deux frères, donc la transmission, on ne peut pas la faire, en fait. Je n'ai pas de vignes qui sont ma propriété. Je loue tout à mes parents, donc ce qui est facile, puisque tout est en location, les vignes, le cuvage, tout est là, tout est présent. Mais il faut essayer de, que ça soit équilibré pour que mes frères, dans 10 ans, ils disent pas « Oui, non, mais pourquoi toi, tu aurais bénéficié de ça ?» Par exemple, du cuvage gratuit qui t'a permis de te lancer dans une structure d'entreprise et de domaine et que maintenant tu gagnes de l'argent. Et pourquoi moi, j'en ai pas bénéficié, quoi. Donc, ce qu'on veut, c'est que ça soit le plus équilibré possible. Donc, c'est pour ça que je loue tout à mes parents et que c'est très compliqué, là, en ce moment. On est justement là-dessus en train de voir si... mon père va rester ou pas dans l'entreprise. Et en plus, mon père, il sait pas trop ce qu'il veut faire, quoi. Il sait pas trop s'il veut continuer à travailler avec moi dans les vignes, il veut plus travailler du tout, parce que ses vignes, c'est sa vie, mais en même temps, il voit que le domaine prend un autre profil et que ça sera plus lui qui dirigera tout. Donc, c'est difficile. En plus de ça, il y a l'enjeu, le fait que mon père, je pense que dans sa tête, au démarrage, c'était pas sa fille qui allait reprendre, quoi. Si c'était quelqu'un, c'était enfin, il reste ce truc très du patriarcat où c'est les hommes qui font la vigne, qui reprennent des domaines. Ça s'améliore beaucoup, mais ça reste assez prépondérant quand même.
Toi, on te l'a fait sentir beaucoup?
Moi, en fait, ça, je le pensais pas. Je pensais pas que mon père allait réagir comme ça, mais ici. Enfin, je pense qu'en lui, il y a ce truc du patriarcat où il se dit c'est trop dur pour une fille, et du coup, il s'inquiète d'autant plus pour moi. Il s'inquiète toujours d'autant plus pour moi, pour mon avenir. Mais comment tu vas faire par exemple, l'enjambeur il tombe en rade et que je suis pas là? Parce qu'à l'heure actuelle, c'est lui qui gère l'enjambeur, etc. Je lui dis je ferai comme dans toute. Exploitation, domaine ou entreprise, tu prends quelqu'un qui a les compétences pour le faire, moi je les ai pas. Et lui, il ne conçoit pas ça parce qu'il a une conception du métier qui est totalement différente de la vision que j'en ai à l'heure actuelle. Lui, il a une conception du métier où tu fais tout, en fait, toi-même, de A à Z, même si t'as pas le temps, tu bosses samedi, dimanche. Alors que nous, je pense qu'on est plus des entrepreneurs tout en gardant... Moi, je pense qu'il y a des étapes très importantes dans la vigne que tu dois faire, mais que tu dois aussi rationaliser ton travail. Il y a des étapes où j'ai pas besoin d'être là, que je peux faire à des gens et où je suis nulle pour les faire, ou alors je suis pas assez forte physiquement. Voilà, donc je pense que c'est bien de le penser comme ça. Et mon père, lui, il pense que du coup, je suis une fille, donc je peux pas porter un sac d'engrais de 45 kilos. Donc du coup, en fait, tu peux pas faire vigneronne. Mais c'est totalement réducteur comme pensée. Hein. Mais il a cette pensée-là et du coup, c'est très compliqué. C'est des débats sans fin avec lui sur sa vision patriarcale, sur parfois la misogynie qu'on peut te faire ressentir. Il m'a dit « Ah, mais toi, de toute façon, tu feras que le commerce. Ben, » Non, mais c'est quand même hallucinant que... Enfin, j'aurais pas pensé que mon père pensait comme ça, quoi. Et si, il pense comme ça, quelquefois. Donc, du coup, c'était un peu dur. Il y a eu des moments difficiles sur ça. Il y a eu des moments difficiles aussi sur... j'aimerais quand même le dire, sur l'ego, quoi, l'ego masculin... L'ego masculin de... moi, je suis arrivée, je voulais faire du bio, des vins naturels. Et mon père m'a dit « Oh, mais de toute façon, ça sera tout tordu la première année. » Non, non, si, hein. Mais c'est toujours... C'est jamais dans le catastrophisme, il va pas me dire ça. C'est un peu toujours avec une pointe d'humour, hein, humoristique. Mais c'est le sujet de fond, c'est ça, quoi.
Mais ça fait quand même mal.
Ouais, ça fait quand même mal. Et tu vas arracher tous les cèpes dans les vignes, tu feras des vins tordus. Et puis en fait, quand il a vu au fur et à mesure que les vins étaient bons, que ça fonctionnait, que... Et du coup, ce qui est drôle, c'est que maintenant, il veut plus quitter le domaine, quoi. Alors qu'au début, il n'était pas du tout d'accord avec ce style de vin et tout. Et maintenant, il ne veut plus quitter. Et du coup, je lui ai dit, maintenant, il faut aussi que tu partes, que tu me laisses la place. Et là, il y a un truc d'ego qui revient et il dit non, c'est mon domaine. C'est hyper marrant, quoi. C'est hyper psychologique, en fait, de travailler en famille. Il faut être bien conscient que tu vas faire face et faire ressortir des choses familiales que tu n'avais pas imaginé du tout, quoi.
Ça, tu l'as découvert? Ouais. Tu y pensais avant ou pas?
Non, pas du tout. Pas du tout que tu vas faire ressortir des choses sur le patriarcat, la façon de penser de ton père sur la place des femmes dans les vignes. Je pense que j'ai fait pas mal ressortir chez lui le fait que lui, je pense qu'il aurait aimé passer au bio, faire des vins comme ça, et finalement c'est moi qui l'ai réalisé. Et ça, chez lui, ça a fait ressortir, je pense, des problèmes d'ego et de la déception par rapport à sa carrière, quoi. Et du coup, c'est pas facile à gérer au quotidien dans le cuvage, parce que si je prends une décision, il a l'impression que je suis égocentrée et que je crois tout savoir, et que du coup j'écrase un peu sa méthode qu'il faisait lui avant. Alors que c'est pas du tout le cas. Je critique pas du tout sa méthode qu'il faisait avant, mais en fait c'est son ressenti, parce qu'il est pas forcément fier, et je sais pas pourquoi de ce qu'il a fait, parce qu'il aurait aimé vendre plus de bouteilles. Et du coup, je me confronte à des problèmes psychologiques de sa carrière auxquels je pensais pas du tout, mais du tout, quoi. Du coup, c'est un peu un travail de psychologue aussi, sur, notamment là, on est en train de voir comment on va tout transmettre, parce qu'il en reste, enfin, que je vais louer, etc. Enfin, les derniers millésimes, il en a en stock, est-ce que je vais les racheter, tout ça est vraiment tout imbriqué avec aussi mes frères qui sont là, qui disent, c'est aussi le domaine familial, donc...
Ils se sentent un peu chez eux aussi.
Ils se sentent aussi concernés, en fait, ce qui est normal. J'ai aussi mis Famille Guérin sur mes étiquettes parce que je voulais que mes frères se sentent concernés. Et si un jour, ils se sentent de revenir sur le domaine, je voulais laisser la porte ouverte aussi, parce que je considère que oui, les vignes, c'est les vignes de famille. C'est pas que mon nom sur l'étiquette, c'est global. Au début, j'avais mis que Elisa Guérin. J'ai changé par la suite pour mettre Famille Guérin, justement parce que mon père m'a dit non, c'est y a pas que toi, quoi. Il n'y a pas que Elisa Guérin. Ce que je comprends tout à fait, et j'étais totalement d'accord avec lui de faire ça, de mettre Famille Guérin pour valoriser tout le monde et laisser la porte ouverte aussi à mes frères si un jour ils veulent revenir. Mais je m'attendais pas, en fait, que ça soit aussi compliqué de revenir sur un domaine familial, dans les relations familiales, et notamment la relation avec mon père, quoi. Vraiment.
Ta mère, elle a travaillé au domaine aussi ?
Ma mère, elle travaille au domaine... En fait, elle a travaillé au domaine pendant 20 ans avec mon père, mais à mi-temps, elle s'occupait de nous en même temps. Et ensuite, elle est sortie du domaine pour aller travailler ailleurs, parce que ma mère n'a jamais été trop intéressée par le vin ni la vigne. Donc voilà. Ma mère fait un peu le tampon parfois entre mon père et moi quand il y a des engueulades, ce qui l'épuise un peu parfois aussi. Mais franchement, moi, je ne pensais pas à tout ça, quoi. Pas du tout. Et je pense que c'est le cas chez sur plein de domaines. J'ai des copines qui ont repris des domaines de leur père aussi. Et tu penses que ton père est pas du tout dans le patriarcat, etc. Et en fait, quand t'arrives, tu comprends que il y a quand même une éducation autour de ça qui est dure à déconstruire pour eux, quoi.
Est-ce que dans les bons côtés d'avoir un domaine familial, t'as pu profiter du réseau de distribution de ton père? Alors pas trop, parce que il y avait la partie négoce. Est-ce qu'il y avait un petit réseau de distribution sur lequel t'as pu t'appuyer malgré tout pour le peu de vin qui l'embouteillait ou pas?
Non, pas du tout. Le réseau de distribution, c'est moi qui l'ai construit toute seule. Mais il y a eu plein d'aspects positifs de reprendre un domaine familial, puisque mon père m'a beaucoup aidé. Il va beaucoup à la vigne. Il a aussi une connaissance hyper hyper pointue de ses parcelles, des orientations, de l'âge des vignes, de quel style, même s'il faisait pas des vins naturels, de quel style de vin ça donne. Et ça, c'est vraiment une chance incroyable, puisque dans les vinifs, dans les vinifs, il m'a toujours aidé. Il a toujours été là au cuvage. Et je pense que c'est l'association de ma prise de risque et mon intuition sur la volonté de faire des vins naturels et d'être en bio. Et mon père, sa connaissance très technique et très pointue de ces parcelles qui fait qu'on a réussi à faire des vins comme ça. Et ça, je l'aurais pas fait sans lui. Ça, c'est évident que j'aurais pas fait sans lui. Mais je m'attendais pas à des confrontations sur d'autres aspects. Mais par contre, je pense que l'association de sa technique et de moi, mon intuition, ça a fait beaucoup sur le style de vin qu'on a fait. Ouais.
Mathilde, donc toi, tu as repris le domaine en 2022. C'est ton deuxième millésime là, que tu proposes.
Oui.
Commercialement, t'en es où ? Est-ce que tu es contente de la manière dont ça se passe jusqu'à présent ?
Oui, ben, on a beaucoup de chance parce que d'avoir eu l'opportunité d'avoir ces vignes en location pour 2022 par rapport à ce que j'ai acheté en 2023. En fait, ça m'a mis le pied à l'étrier pour faire une petite production, petite, par rapport à ce que j'ai fait cette année. Hein, mais du coup, on a sorti 6000 bouteilles pour 2022 et du coup, ça s'écoule assez rapidement. Donc finalement, tu crées un petit peu de l'attente, ça fait produit rare, mais vous inquiétez pas, il y en a qui arrivent encore plus en 2023. Mais du coup, ça me permettait de me mettre le pied à l'étrier et moi aussi de gagner confiance en moi parce que je découvrais une région, un cépage. Moi, j'avais que mes repères bourguignons de chez Sylvain Pataille. Donc oui, t'as des bases, t'as vu pas mal de choses. L'échange aussi, encore une fois, avec les autres vignerons est très précieux. Mais d'être confronté à, c'est bête, mais les premiers traitements phytosanitaires, enfin, voilà, t'es tout glagla, tu commences à 5h du matin, t'es sûr d'avoir réglé tes buses et puis ça se bouche. Enfin, en fait, c'était à petite échelle la confrontation avec tous les petits problèmes techniques qui peuvent t'arriver. Et du coup, t'arrives vachement plus serein et vachement plus sûr de toi. Pour moi, là, en 2023, c'était sport parce que là, j'avais 10 hectares et que je vais rediminuer un petit peu. Donc, j'avais toujours un peu 2 hectares sur le travail du sol, comme les produits phyto. C'était toujours là où c'était un petit peu trop pesant, les 2 hectares en trop, là. Mais franchement, ça a été hyper cool pour me sentir sereine, aller jusqu'au bout sur les vins et pouvoir sereinement aussi les commercialiser droite dans mes bottes en mode « Ok, j'ai réussi à faire des vins que j'estime me plaisent, quoi ». Mais bon, ça se construit au fur et à mesure. T'es quand même un peu flippé hein, quand tu présentes la première fois tes vins, c'est tes premiers jus, etc. Mais la commercialisation, du coup, elle s'est activée super vite, pour revenir à ta question. Aussi grâce au réseau que j'ai pu développer chez Sylvain Pataille. Encore une fois, on va pas se mentir, hein, le fait d'avoir été un peu touche-à-tout, j'ai aussi animé des dégustations, je l'ai accompagné beaucoup en salon. Et en fait, bah, forcément, t'es amené à parler de toi aussi, quand tu rencontres des pros en salon, etc. Et du coup, ils se disent « Ah, elle va s'installer dans quelques années, on aura envie de suivre ». Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est aussi pour ça que j'ai relevé le défi de commencer avec pas de matos en 2022. C'est que je me suis dit « Ça peut être super pour enfin verrouiller et activer ce réseau de commercialisation qui attend mes futurs vins ». Qui n'existait pas, parce que j'allais rentrer peut-être pile dans la phase où ça allait un peu s'essouffler, quoi. Parce que ça allait faire 2 ans que j'étais partie de chez Sylvain, donc j'avais ce réseau-là, j'avais les cartes de visite et tout, les contacts, mais bon, au bout d'un moment, quand il se passe rien, bon, bah, ça s'essouffle. Donc là, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier pour démarrer avec, en plus, j'ai la chance d'avoir démarré avec des personnes que j'aime aussi humainement, quoi. Donc, et qui sont en capacité d'absorber des plus grandes quantités pour 2023. Donc là-dessus, on est super contents, et puis bah, là, en plus, j'ai la possibilité de prospecter un peu plus large, donc. J'ai hâte aussi de découvrir des nouvelles personnes par moi-même, maintenant que je me suis donné confiance en moi avec ce qu'on avait pu sortir pour 2022 et ce qu'on essaie de continuer à faire. Voilà.
Pour être très concret, tu avais 10 hectares, là tu es passé à 8, mais sur 2022, sur cette surface-là, tu as sorti 6000 bouteilles uniquement. Qu'est-ce que tu as fait du reste ?
Ah non, 2022, j'étais sur 2,7 hectares.
Ok, d'accord.
Et en 2023, j'ai racheté là, mes vignes qui était le projet initial de 8 hectares. Mais c'est un petit peu alambiqué comme histoire, hein, parce qu'il y a des trucs qui n'étaient pas prévus et tout. Donc je ne t'en veux pas, t'inquiète pas. Mais en fait, moi, j'avais signé pour m'engager sur des vignes en 2023. Et en trouvant la petite cave allouée hein, pour ces 8 hectares à l'origine, le vieux monsieur qui était historiquement vigneron me dit « Ah bah si tu veux, en plus de la cave, il y a un demi-hectare de chenin juste derrière. » Je dis « Un demi-hectare, la parcelle était assez grande et tout. » Je dis « T'es sûr, un demi-hectare ?» En fait, il y avait 2,7 hectares. Mais du coup...
Il avait le compas dans l'œil.
C'est clair, ouais, c'est clair. Il était plutôt jeune. Mais donc branle-bas de combat, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, encore une fois. Et puis moi, ça faisait un an que j'étais au chômage, j'étais trop chaud. Donc j'ai dit ok, go. Et encore une fois, l'entraide a été super. Bah, Christophe, toujours le même, m'a prêté un sécateur électrique parce que les vignes n'étaient pas taillées, on était en avril. Enfin, tout s'est fait. Et puis ce qui était intéressant, c'est que sur cette même îlot de vignes, il y avait... un petit îlot de 40 arts planté en 1939, ce qui m'a permis de sortir la cuvée qu'on va être amené à déguster plus tard. Et ça m'a permis de designer deux cuvées pour démarrer sur mes 6000 bouteilles. Donc j'ai bien fait 6000 bouteilles, mais sur 2,7 hectares. Bon, après, si tu calcules, le rendement, il n'est pas non plus incroyable.
Ouais, il n'est pas énorme, oui.
Mais ça, les vignes, elles sont assez déplantées. J'ai quand même taillé assez tard, donc ça leur a fait un coup au moral. C'est une belle expérimentation de la limite de la taille tardive vis-à-vis des gelées de printemps. Mais voilà. Et puis là, elles ont encore du mal. En vrai, là, elles ont encore fait un rendement assez compliqué pour 2023. Donc, alors que je les ai bichonnées, on avait fait des apports en calcaire parce qu'il y en avait des pH un peu trop bas. Bon, bref. Donc, non, la vigne, je pense qu'elle a besoin d'être arrachée et replantée progressivement. Donc... tout ça pour dire que rendement pas incroyable, mais quand même 6000 bouteilles, donc on prend, ça c'est très bien vendu et les retours sont cool, donc on est très content et donc ça donne encore plus d'énergie pour bien assurer les 8 hectares qu'on a récupérés là en 2023. Mais encore des rendements un peu cata sur cette même île là.
Elisa, tu te souviens du premier vin que t'as fait ? Et est-ce que aujourd'hui, si tu le goûtais aujourd'hui, tu serais contente ?
Alors, le premier vin que j'ai fait, c'est en 2016, en fait. J'avais fait une cuvée de 10 hectos. J'ai regoûté. C'est marrant parce que c'est un millésime que j'ai plus du tout. J'ai plus du tout de bouteilles. Et j'avais échangé des bouteilles avec des copains vignerons de la région. Et des fois, je vais chez eux en soirée et ils me la font goûter à l'aveugle. Donc, c'est rigolo. C'est un jeu entre vignerons, ça, de se faire goûter ses vins à l'aveugle, quoi. Et 2016, non, j'avais adoré millésime très facile, en fait, à vinifier dans le Beaujolais. Donc, première fois que je veux faire des vins naturels en levure indigène, je dis à mon père, ouais, je vais faire une cuvée. Et là, ça marche. Mais coup de bol, je tombe sur une année facile aussi, quoi. Donc, c'est quand même... peut-être que ça participe à ta prise de confiance en toi, ouais. Quoi. 2016, année facile à vinifier. Ensuite, 2019, mon premier millésime réel, année assez facile à vinifier aussi.
Millésime chaud plutôt, là, ça mûrit bien.
Ouais. Millésime chaud 19 avec de la pluie au 15 août qui permet quand même de garder pas mal de fraîcheur, d'avoir des raisins qui sont pas flétris, où on n'est pas sur un phénomène de concentration, où les acidités chutent d'un coup, etc. Donc assez facile à vinifier. Et là, 2020, année solaire, sécheresse, horrible, des acidités catastrophiques. Et en fait, je prévois pas du tout le truc. Donc, je chope de la brette sur des cuves. Et vraiment, une année pleine d'enseignements sur la vigilance qu'on doit avoir sur des années solaires. Et vraiment, d'être attentif aux paramètres, même s'il y a une partie très intuitive dans la vinif, il y a aussi une partie très technique et scientifique, en fait, où on accompagne notre matière première vers... Le meilleur vin qu'on puisse faire avec la matière première. Et 2020, c'est la cata, quoi. Et là, je me dis, putain, mais tu veux faire ça comme métier? C'est quand même parce que quand tu chopes de la mrette sur les trois quarts de ton cuvage et que faut que les vinifs se terminent quand même, que les sucs se terminent et tu goûtes tes vins, tu dis, mais c'est pas bon, quoi. Enfin, tu perds vraiment toute confiance en toi. Et alors, brette sur certaines cuves, il y en a certaines, je laisse finir les sucs comme ça, je remets des très bonnes lides, je remets des bonnes lides d'une cuve qui n'était pas partie en brette dessus, ce qui permet, avec de l'élevage assez long, d'avoir un vin qui est finalement assez surprenant, maintenant, 3 ans après, que je trouve plutôt bon. Et c'est aussi ça, la magie des vins, des lits et de connaître ces terroirs. C'est que tu peux rattraper des cuves qui commencent à partir en vrille. Si tu connais très bien tes terroirs et que tu sais que cette cuve, elle produit des lits qui sont toujours très bonnes parce que ça fermente vite, parce qu'il n'y a jamais de déviation et jamais de déviance. Et avec ça, tu peux rattraper des mauvaises cuvées. Et du coup, 2020, compliqué. Et après, je crois qu'à partir de 21, J'ai trouvé à partir de 21 un rythme un peu plus régulier. Je trouve sur mes vins, quoi, un peu plus régulier. Mais franchement, je pense que chaque année est tellement différente que c'est difficile. Mais 16, c'était trop facile à vinifier. Donc, c'est pas un millésime de référence pour moi, quoi. C'était trop facile. Mais ça m'a donné confiance. C'est l'avantage.
Alors, je voudrais vous demander un petit exercice d'introspection, là. Vous fermez les yeux et vous imaginez le vin que vous aimeriez réaliser, votre vin ultime un petit peu là, avec vos parcelles. À quoi il ressemble ce vin là? Vas-y Elisa.
Moi j'aimerais vinifier un rouge parce que je préfère le vin rouge. Je trouve qu'il y a plus de complexité. Enfin bref, c'est mon avis. Un vin rouge avec une attaque de bouche fruitée. Un milieu de bouche tout en finesse, du velours en milieu de bouche, et à la fin une belle acidité, de la minéralité et quand même du tanin. Je pense que le vin parfait que j'aimerais faire, c'est un vin que tout le monde, tout vigneron aimerait faire. C'est un équilibre entre la structure tannique, mais aussi du fruit et du plaisir. Et c'est un vin, pour moi, c'est le vin que j'aimerais faire, que je peux boire deux bouteilles hyper facilement, quoi, à deux, on peut boire deux bouteilles facilement, et quand on a fini la bouteille, on dit ah non, ben il y en a déjà plus. C'est ça, pour moi c'est ça un grand vin et un bon vin, quoi.
Et ça, il y a un terroir sur lequel tu pourrais y arriver, tu penses? Plutôt Moulin à Vent, plutôt chez Rouble?
J'espère que je pense que j'ai un terroir à Moulin à Vent qui s'appelle Les Taurins, qui à mon avis a le potentiel pour avoir pour faire un vin plein de finesse. Pour l'instant, je cherche encore ça. C'est très difficile de toucher du doigt le vin parfait qu'on aimerait faire. Je pense qu'on n'y arrive jamais. On sait jamais l'année où on y arrive. Le jour où on y arrive, on a vinifié quelque chose et je pense que tu le sais, genre 10 ans après, que c'était un grand vin.
Mathilde, ce serait quel vin là qui ferait battre ton cœur?
Je vais peut-être parler de deux approches, parce que moi, il y a la partie aussi vinif qui me travaille énormément. Là, moi, je m'autorise d'ajouter de l'azote pour compléter l'azote assimilable dans mes vins, et parce que pour l'instant, c'est une vraie cata, et il faut vraiment qu'il y a un gros travail agronomique que j'ai besoin de faire. Et j'aimerais bien, sur la partie technique, arriver à plus avoir à complémenter, quoi. Plus à ajouter d'azote, à avoir fait suffisamment du bon boulot pour que mes azotes assimilables ils soient beaux qui témoigne du fait que j'ai bien bossé à la vigne et pareil, et à vraiment arriver à m'affranchir du soufre, j'aimerais beaucoup. Je pense à la cuvée de Tessa Laroche en 2021 qu'elle nous a fait goûter, où ça y est, elle a atteint le truc où elle est sans soufre et c'est magnifique. Donc,
son Rochemoine,
ouais,
qui est très bon.
Incroyable, incroyable, n'est-ce pas?
On a la chance d'avoir ses vins parce qu'on l'a interviewé il y a quelques années. C'est vrai que son 2021, c'était quand même hallucinant.
C'est hyper inspirant. Et bon, il y a cette partie-là qui me travaille énormément. Donc bon, voilà, ça va être du temps. Hein, et ça se passe vachement à la vigne. Évidemment. Et puis après, alors en termes gustatifs, moi c'est vrai que je suis hyper séduite. Alors moi c'est plus sur les vins blancs du coup, et sur du chenin principalement. J'aimerais vraiment bien avoir ce côté sur la poire. Ça j'adore quand t'as des chenins bien mûrs qui sentent la poire. C'est vraiment ce qui me fait vibrer. Et après, Isa l'a dit, mais sur le côté l'équilibre. Voilà, faut un vin où de l'attaque jusqu'à la finale, t'es une sorte de synergie, une belle synergie, une harmonie de l'umami aussi, et surtout le côté digeste. Moi, si j'ai ces éléments-là, c'est chouette. Et pas trop court en bouche, évidemment. Enfin, voilà. Qu'on s'éclate, en fait, de l'attaque jusqu'au milieu, jusqu'à la fin, tu vois, que ça évolue. Moi, j'adore me représenter, quand je déguste un vin, une espèce de vague ou un symbole qui bouge dans ma tête, et ça me fait penser au vin, et c'est comme ça que je m'en rappelle, en fait, après. Enfin, c'est un peu bizarre, mais voilà.
Avant qu'on passe à la dégustation, là, Elisa, je voudrais poser une question désagréable, peut-être. Moulin à Vent, on entend parfois dans le Beaujolais que c'est l'appellation des Bourguignons. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui disent ça?
Je vais commencer par le début. C'est l'appellation des Bourguignons, effectivement, depuis la fin du 19e, très connue pour ses terroirs, notamment le terroir des Taurins. Et petite anecdote, pourquoi le village de Romanèche s'appelle Romanèche-Taurin? Parce que c'est comme Gevrey-Chambertin, on accole au nom du village le meilleur terroir de l'appellation. Et du coup, Il y a toujours eu une empreinte forte des bourguignons qui sont venus acheter beaucoup, ils achetaient en fût à l'époque, des fûts sur le terroir des Taurins. D'ailleurs, ce terroir-là s'appelait simplement les Taurins et non Moulin avant les Taurins. Et qu'il était hyper connu, aussi connu que le Clos de Tarbes à l'époque, et aussi cher. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup de bourguignons qui viennent acheter des vignes à Moulin avant, de par cette historique qui date de la fin 19e, donc ça fait un petit moment quand même. La problématique pour nous, jeunes, c'est que c'est très difficile du coup de s'acheter des vignes sur Moulin avant, puisque les prix ont augmenté et que c'est...
C'est parmi les crus les plus chers ?
C'est le cru le plus cher. Une parcelle, par exemple, très bien placée à Moulin avant, ça peut monter. On entend tout style de prix, parce qu'après, c'est... Il y a des tractations un peu secrètes qui se font, mais je crois que sur des terroirs connus, récemment, c'est monté à 150, 160 000 euros l'hectare.
Ça commence à être sérieux.
Ça commence à être sérieux. Le terroir des Taurins, c'est mes parents qui l'ont acheté il y a 30 ans et je les remercie vraiment pour ça parce que c'est un super terroir et mon père, à l'époque, l'a déjà payé au moins 30% plus cher que le marché, et c'était il y a 30 ans. Et là, à l'heure actuelle, les Taurins, ça doit valoir 120 000 euros l'hectare par là. Et sur ce terroir-là, il y a quelques autres vignerons, petits vignerons, mais on est entouré par Château des Jacques et un autre gros domaine qui s'appelle Château du Moulin à Vent. Donc je suis assez fière, on est assez fiers d'exploiter ces 1,5 hectare en tant que petit vigneron. Dernière chose sur... les bourguignons qui viennent acheter des vignes, je ne vais pas les appeler les envahisseurs, ça nous enrichit aussi. Hein. Ça nous enrichit aussi qu'ils viennent avec d'autres styles de vinification.
D'autres styles de barrique aussi.
D'autres styles de barrique aussi, ouais. Nous, moi, ce que je veux faire, c'est justement montrer que le Moulin à Vent, c'est un vin du Beaujolais. Donc, je veux conserver cette macération traditionnelle du Beaujolais, qui est la grappe entière, faire des macérations semi-carboniques ou carboniques. Et pas faire de les grapper, pas amener de bois, parce que je trouve que le gamay, avec du bois, le gamay est un cépage fragile, donc qui s'oxyde facilement. Donc avec du bois, automatiquement, tu perds les arômes fruités, tu pars sur des arômes qui sont pas intéressants à mon sens. Et du coup, je suis contente parce que finalement, sur Moulin à Vent, il y a beaucoup de gens qui grappent. Et nous, moi, je fais de la macération traditionnelle du Beaujolais pour montrer que... Moi, à mon humble avis, c'est le gamay est fait pour faire de la grappe entière. Il n'est pas fait pour être grappé, quoi.
Il y a beaucoup de moulins à vent ces dernières années qui sont produits, qui sont assez très concentrés, assez noirs, avec une charge tannique relativement importante. Pas tout à fait l'image qu'on a du habituel du Beaujolais, quoi.
Tout à fait. Et enfin, moi, ce que je pense de ça, c'est que quand on égrappe le gamay, qu'on va chercher beaucoup de pigeage, beaucoup de remontage, on le travaille trop et on perd cette fermentation et dégradation enzymatique qui se passe quand tu fais de la fermentation en grappe entière et qui fait que tu as des arômes fruités primaires et de la complexité aromatique quand tu fais de la grappe entière. Moi, je trouve que quand justement, il y a beaucoup de gens sur Moulin à Vent qui disent « Ah oui, mais faut travailler les vins et les cuves pour en sortir quelque chose », moi, je pense que c'est un peu C'est pour nourrir ton intellect. Ça fait plaisir à l'être humain de se dire j'ai fait plein de trucs sur ma cuve, donc c'est bon quoi, comme vin. Donc ça va être bon comme vin quoi, parce que j'ai fait telle action quoi. C'est un peu pour nourrir son intellect. Et moi, je pense que notre rôle, c'est d'accompagner les raisins comme ils sont et d'essayer de les amener vers la meilleure chose qui puisse être comme vin quoi. Et du coup dans le Beaujolais, ça fait des années qu'on vinifie en grappe entière et il y a une bonne raison pourquoi on est toujours resté en grappe entière. Et je suis en tout cas pas prête d'abandonner ce style-là. Mon père a eu fait de les grapper en 2017. Et personnellement, je n'aime pas le style de vin que ça fait sur le gamay. Ça fait des vins, je trouve, assez austères, qui manquent de fruits. Et finalement, les tanins sont assez rudes et rustiques en fin de bouche. Alors qu'avec la grappe entière, on peut avoir beaucoup de finesse et beaucoup de complexité. quand je pressure, j'essaie de pressurer tout doucement pour pas extraire de tanin. On décuve toutes les cuves par-dessus par un espèce de petit toboggan, ça tombe direct dans le pressoir pour avoir notre petite grappe entière, vraiment entière, qu'on pressure tout doucement et donc pas du tout broyer les rafles. Donc quand on broie pas les rafles, du coup on n'a pas ces tanins verts en fait. En tout cas, c'est mon avis.
Je vais faire le service pour les gens qui sont dans la salle. Est-ce que tu peux nous présenter la cuvée pendant que je fais le service, s'il te plaît ?
Commence par la vigne. Du coup, c'est un moulin à vent, la vigne de mon père, en hommage à mon père, parce que c'est ses vignes, donc voilà. Et du coup, c'est une cuvée d'assemblage de vignes qui ont entre 40 et 60 ans, sur des terroirs limoneux et granitiques qui sont situés pour une partie en haut du village de Chéna sur des nords et pour une autre partie qui sont situés plus en dessous du village de Chéna, plus sur des terroirs limoneux. Donc macération en grappe entière pendant environ de 10 à 3 semaines, ça dépend des années, quoi. Là c'est 2022, donc c'est 15 jours à peu près. Macération en grappe entière, donc levure indigène, pas de soufre en vinif. Ensuite, il n'y a pas de soufre non plus en élevage. Élevage 100% en cuve béton pendant un an. Ensuite, juste avant les vendanges d'après, je soutire, je mets en bouteille et je mets une petite dose de soufre à la mise pour protéger de l'action oxydante de la mise en bouteille. Pour l'instant, j'ai jamais essayé de faire du sans soufre 100%. Je suis un peu, pour l'instant, frileuse là-dessus, mais peut-être qu'un jour, je connaîtrai assez mes terroirs pour faire des cuvées sans soufre.
Ouais, donc on vient de goûter là, mais moi, je trouve qu'on a un vin. Oui, par rapport au moulin à vin que j'ai pu goûter ces dernières années, ça tranche quand même. C'est un 2022, la couleur elle est quand même assez légère, c'est translucide, c'est pas une couleur très soutenue. Et on a quelque chose d'assez élégant, je trouve, de vraiment fin, des tanins qui sont là mais qui sont encore une fois très fins. C'est vrai que c'est un style assez particulier de moulin à vent, moi j'aime beaucoup, c'est très bon. Hein. Merci.
Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir, c'est ce que je cherche, de la finesse dans les tanins, tout en gardant l'identité du terroir de moulin à vent, qui fait quand même des vins beaucoup plus tanniques que, par exemple, un Fleury ou un Chérouble.
Mathilde, on a aussi une cuvée de chez toi qui est ouverte et qu'on va partager là. Est-ce que tu peux nous la présenter, s'il te plaît ?
Oui. Donc, millésime 2022, mon premier millésime. Donc, on est sur une parcelle de schiste gréseux. Donc, j'avais un gros îlot de 2,7 hectares. Au sein de cet îlot-là, donc il y a une sélection clonale des années 70 qui fait mon chenin d'entrée de gamme. Et là, on va déguster les 40 arts de vieilles vignes plantées en 1939. Donc, schiste gréseux, schiste vert avec des bancs de phtanite. C'est du coup un pari qu'on a pris en se disant on a un matériel génétique différent avec des vignes en sélection massale. Ça peut être intéressant de les vinifier à part. Donc, on a tenté. Donc, je presse directement. J'ai un pressoir horizontal et un petit vertical. Pressurage de 4 à 5 heures, pas de sulfite en vinif, je balance tout en cuve et j'attends que la fermentation soit bien lancée en cuve et en général à mi-fermentation. J'entonne, donc là c'est ma cuvée qui est 100% en fût, avec 50% de fût neuf, 50% de vieux fût. Bon, ça faisait que 10 hectos, hein, donc en gros il y a un fût de 500 litres neuf et un fût de 2014 en 600 litres pour compléter. Mise en masse du coup début juillet avec 1 g de soufre, je soutire sous azote / CO2, c'est un combiné, et 1 g de soufre à la mise en bouteille. Donc j'ai acheté un petit groupe de mise que je suis allée chercher en Bourgogne cet été et ça nous a permis de la mettre en bouteille au moment où on avait peur qu'elle commence à s'abîmer en cuve dans mon ancienne petite cave qui n'est pas parfaitement isolée, donc on était content de pouvoir sécuriser début août, voilà. Donc le nom de la cadastre c'est la pièce de relais, et du coup pour les cuvées de garde, ça nous tenait à cœur de garder le nom historique des parcelles, c'est comme ça que je design mes cuvées. J'invente les petits noms de cuvées dans le thème du nom de mon domaine, le terre d'imaginaire, et pour les parcellaire, je garde le nom historique des parcelles. Donc voilà, là c'est la pièce de relais 2022.
Ça te plaît ce genre de vin, Elisa, là ? Je te vois opiner du chef, là.
J'aime beaucoup la persistance en bouche des amers sur ce type de chenin. C'est des chenins, hein ? Ouais, les chenins, j'adore cette persistance amère. Et là, elle s'exprime beaucoup. C'est salin, minéral. Bah, bravo.
Merci, Mathilde. Merci. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question dans l'assistance ? Ouais. Est-ce que vous pouvez venir ici ? Je vais vous passer le micro. Je vais vous tendre le micro.
Du coup, une question pour toutes les deux. Si vous deviez vous donner un conseil à vous-même, à la vous, avant de monter votre propre domaine, qu'est-ce que vous seriez donné comme conseil ?
Très bonne question, ça. Merci.
Moi, je me serais dit, Elisa, garde toujours ton insouciance.
Et tu y arrives pour l'instant ?
Non, pas toujours. C'est pour ça que je me le serais dit. Parce que des fois, on devient un peu trop sérieux d'un coup, quand il y a des enjeux financiers, etc. Et donc, Elisa, garde ton insouciance. Je pense que c'est ce qui fait un peu la beauté du métier, en plus d'être insouciant quand on vinifie et quand on travaille dans les vignes.
Je rejoins complètement Elisa aussi là-dessus. Vraiment, c'est quelque chose qui peut avoir tendance à trop te travailler. Moi, je sais que je peux ruminer des trucs pendant la nuit à cause de ça. Donc ça c'est un point super important. Je verrai pas. J'ai pas d'inspiration autre, mais je trouve que c'est un très bon point. Carrément. Il faut arriver à lâcher et à dire ok, c'est comme ça. On passe à autre chose.
Et avance.
Ouais.
Comme ça.
C'est ça. Alors, et ça peut toujours être pire, et ça pourrait toujours être pire. Oui, je pense qu'on est on est infatigable sur le fait qu'on veut faire toujours mieux, et c'est ce qui va faire qu'on va faire des bons vins, peut-être maintenant, mais aussi dans le temps futur, quoi. Et c'est notre passion qui nous alimente et qui nous donne envie d'aller toujours chercher mieux. Mais c'est vrai que parfois, il faut arriver à se dire, ok, là, c'est quand même bien ce que tu as fait, sois content, s'auto-congratuler un petit peu plus, quoi.
Bon, je peux passer à la dernière question traditionnelle, alors. Est-ce que vous êtes heureuse dans ce que vous faites aujourd'hui ?
Très, très, très heureuse.
Elisa ?
Également très, très, très heureuse pour la liberté que ça nous apporte. Franchement, c'est un métier génial.
Ben, ça fait deux réponses franches et très enthousiastes. Je vous remercie et merci pour cette interview.
Merci.
Merci.
Mathilde, Elisa, bravo pour votre engagement et votre courage. Merci infiniment d'avoir parlé à cœur ouvert et d'avoir partagé votre passion pour ce métier. Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre et à nous faire vos retours enthousiastes et constructifs. Depuis quelques mois, pour prolonger votre expérience, nous mettons en vente des bouteilles de vin de vigneronnes et vignerons que vous avez écoutées ici. Il y a de belles pépites en quantité limitée. Pour recevoir la liste des vins disponibles, envoyez-nous un simple mail à l'adresse lebongraindelivresse@gmail.com. Tout ce que vous risquez, c'est de boire bon, voire très bon. Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de l'Ivresse. Réalisation, Romain Becker, Antoine Sica et Florian Nunez. Merci à Emmanuel Nappé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon !